Alors, M. Girard, peut-être juste nous dire, tout d'abord, quand on dit bon responsable de la santé psychologique, est-ce que c'est un poste qui a été créé récemment? Comment c'est l'historique un petit peu de ça?
Oui, rapidement, l'UPA a mis en place un comité sur la détresse psychologique des agriculteurs en 2010-2011. Ce comité-là présentait à la direction de l'UPA des recommandations. Et parmi ces recommandations, il y en avait une qui disait d'accorder davantage d'importance au dossier parce qu'il y avait eu des cas de suicide dans plusieurs régions du Québec et que l'agriculture a atteint un certain niveau de performance qui impose aux hommes et aux femmes qui pratiquent le métier une dépense d'énergie, beaucoup de travail.
Ben oui.
Alors, quand moi j'ai quitté à la retraite, fin 2013, on m'a demandé d'assumer ce dossier et on a développé un plan d'action. D'abord, je devais moi-même m'approprier un peu des services qui sont disponibles et consulter toute la documentation. Alors, un plan d'action a été adopté par l'UPA en 2015-2016. On travaille actuellement un deuxième plan d'action qui va être triennal et qui, là, va couvrir l'ensemble des régions du Québec et les partenaires.
OK. Donc, le premier plan d'action, ça concernait juste un secteur?
Non. Le premier plan d'action, c'était, je dirais, un peu structurel. Alors, nommer des responsables dans chacune de nos régions, établir des contacts avec les centres de prévention du suicide, Réseau Homme Québec et tout ce qui bouge dans le domaine. Parce que nous, notre positionnement n'est pas d'offrir des services aux agriculteurs, mais c'est de faire le lien entre ceux dont, pour qui la responsabilité est d'offrir des services et nos agriculteurs.
Okay.
Moi, dans mes consultations initiales, je me suis fait dire, dans toutes les régions du Québec à peu près, on sait que les agriculteurs vivent une problématique de détresse, mais on n'est pas capable de les rejoindre.
Okay, oui.
Alors nous, à cause de notre structure, l'implication de 1 à 1200 agriculteurs dans nos syndicats, fédérations, on peut rejoindre les agriculteurs. Alors, notre première mission, c'est de faire le lien entre les offrants de services et les producteurs agricoles du Québec.
Donc, j'imagine qu'une autre, une autre principale tâche que vous avez, c'est de faire de la représentation auprès peut-être justement des ministères et du gouvernement?
Absolument. Soit même au niveau du gouvernement fédéral. On a présenté un mémoire la semaine dernière à la commission agricole de la Chambre des communes qui avait décidé de prioriser le dossier de la santé psychologique des agriculteurs canadiens. On est en contact avec le ministère, évidemment, de la Santé et des services sociaux au Québec. Notre interpellation auprès de ces ministères, c'est surtout de développer une stratégie pour adapter les services du réseau public à la réalité des agriculteurs.
Oui, hein,
si on a du temps, on pourra donner des exemples où si on traite l'agriculteur comme quelqu'un qui est en détresse, un homme, comme n'importe quel homme dans notre société, on va se retrouver dans des situations complexes. Parce que le retour à la maison d'un agriculteur malade, c'est de le retourner dans ses problèmes.
C'est ça, effectivement. Mais oui, c'est chez lui. Là.
C'est un peu le fondement de nos démarches. Mm-hmm. Évidemment, en partenariat avec des organismes comme Au cœur des familles agricoles et autres, l'Association québécoise de prévention du suicide. Et à titre d'exemple, dans notre premier plan d'action, on a développé, avec l'Association québécoise, une formation sentinelle, déclinaison agricole.
Oui, c'est vrai, oui.
Le but étant d'utiliser les ressources professionnelles qui se rendent à la ferme, agronomes, vétérinaires, inséminateurs, il y en a près de 2000 au Québec.
Ah oui, oui.
Et de former ces gens-là à avoir l'oreille ouverte, l'œil averti, pour que lorsqu'ils sont en contact avec un agriculteur qui vit des problématiques, de l'interpeller et de le référer. Alors, de cette façon-là, on joue un peu le rôle qui se passe dans un bureau, par exemple, où il y a 200 employés, il y a des gens qui se côtoient, mais en agriculture, l'agriculteur peut facilement s'isoler.
Ben oui.
Ça, c'est après avoir développé du déni parce qu'on n'est pas supposé d'être malade quand on est un entrepreneur.
Ouais.
On n'a surtout pas le temps d'être malade.
Non, surtout, oui.
Alors, la formation Sentinelle, c'est une des clés pour identifier les producteurs qui sont en difficulté.
Ben oui, parce que c'était quelque chose de pas évident de les rejoindre puis d'être en contact avec eux. Comme vous dites, souvent, ils travaillent soit seuls ou en tout cas en petite équipe ou ils sont pas souvent en contact avec des collègues de travail. Donc, c'est moins évident là, à déceler.
Oui, mais je dirais qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont plus en contact avec leur machinerie,
ouais.
Mm-hmm. Leur équipement agricole qu'avec les voisins parce que les voisins sont de plus en plus éloignés.
Mm-hmm.
Et moi, j'ai souvent entendu des agriculteurs me dire... Joe un tel, ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu, qu'est-ce qui se passe?
Mm-hmm.
Ben, il travaille sur sa ferme, puis ça roule dans sa tête, et à un moment donné, il arrive à des situations d'isolement complet. Et même si la conjointe va interpeller l'agriculteur pour dire « Tu devrais consulter, tu files pas, tu es fatigué. Mm-hmm. » Ben, l'agriculteur, il dira « J'ai pas le temps, puis mm-hmm. Ça va guérir tout seul. »
C'est ça.
Mm-hmm. Et souvent, ça mène à des situations assez tragiques.
En plus, les réalités des agriculteurs sont un peu sont particulières parce qu'ils sont, par exemple, sujets au changement climatique, à la température en général, bien sûr. Des fois, des investissements quand même importants au niveau financier. Puis même, comme on parlait juste avant d'entrer en onde avec tout ce qui est pour l'entente avec qui est l'ancienne ALENA, en fait, qui est devenue une autre entente avec le Canada et Mexique et États-Unis. Et puis même, on parle même maintenant là, de la surenchère au niveau des terres agricoles. Donc, c'est beaucoup de stress là, qui s'ajoute là, pour les agriculteurs.
Absolument. Puis, il faut comprendre l'impact de ces phénomènes.
Mm-hmm.
Alors, la température, travailler beaucoup, pas trop prendre de vacances, les producteurs s'étaient accommodés de ces réalités-là.
Ouais. Mm-hmm.
Mais avec l'importance qu'ont pris nos entreprises agricoles, la problématique de manque de main-d'œuvre qualifiée dans beaucoup de régions du Québec... Quand il arrive des phénomènes comme des changements dans le commerce international, l'augmentation du prix des terres, je vous donne quelques exemples d'impact, transfert des entreprises.
Mm-hmm.
Alors si un producteur à l'âge de 60-65 ans, un jeune intéressé à prendre la relève, ben avec l'impact de l'augmentation du prix des terres, l'endettement du jeune prend une autre dimension.
C'est ça.
Et ça peut le décourager.
Je comprends, oui.
Et avoir un impact chez le producteur qui, lui, se voit, dans certaines situations, être le dernier d'une dynastie mm-hmm. de Tremblay, de Bouchard, de Girard. Et il y en a qui ne le prennent pas.
Mm-hmm.
Parce qu'ils ont investi 40 ans de leur vie mettre en valeur. Et là, ils arrivent en conclusion. Est-ce possible que je sois le dernier à mettre en valeur cette ferme-là? Alors, il y en a qui se découragent carrément.
Mm-hmm.
L'autre élément, c'est par rapport au commerce. On sait que la renégociation de l'ALENA a fait l'objet de l'actualité depuis plusieurs mois. L'impact sur la gestion de l'offre est lourd de conséquences parce qu'elle est cumulative à 2 autres ententes, soit celle avec l'Europe et celle avec les pays du Pacifique, le Japon en particulier, qui a pour effet, par exemple, dans la production laitière, d'ouvrir nos marchés canadiens à un peu plus que 8 % de notre production. Alors, si on présume que les autres pays vont nous vendre 8 % de produits de plus,
mm-hmm.
ils vont ajuster le prix pour que ce soit compétitif avec nous, ça pourrait vouloir dire, dans plusieurs situations, que notre production à nous va baisser de 8 %.
OK, OK.
Et ça se positionne quelques années après des années de développement des entreprises et d'investissement des entreprises.
En plus, oui.
Ce qui veut dire que si le producteur a augmenté son taux d'endettement pour un revenu de X, du jour au lendemain, s'il est obligé de le baisser de 8 %, ben, il y en a qui vont se retrouver en situation financière difficile.
Ouais.
Puis on doit dire aussi que l'argent était très disponible.
Ah, ouais,
parce que les producteurs sont capables de donner des garanties.
Mm-hmm.
Les caisses et les banques prêtaient allègrement à des investissements en agriculture.
Alors, c'est
2 exemples. J'en ajoute un autre qui est d'actualité, c'est la problématique de main-d'œuvre agricole.
Ah oui, la main-d'œuvre aussi, oui, c'est ça.
C'est nos entreprises se sont développées pour une personne et demie, 2 personnes, 2 personnes et demie. Si par malheur un producteur perd son employé.
Oui, c'est un gros impact.
Puis il y a incapacité d'en trouver un autre là, mm-hmm. rapidement. Ben veut pas, il réduira pas son troupeau du jour au lendemain, il va travailler.
C'est ça.
Plus.
Plus en plus, oui.
Donc, menace d'épuisement professionnel. Alors, toutes ces nouvelles réalités qui sont dues à des phénomènes externes à l'entreprise, mm-hmm. mais qui ont un impact incroyable, frappe de plein fouet, moi, je dirais 25 à 30 des producteurs qui vont s'en sortir difficilement parce qu'ils sont déjà à la marge, ils sont déjà épuisés dans bien des cas. Et ce qui va se mesurer au cours des prochains mois, prochaines années, ben c'est des relèves qui ne prendront pas la place du parent, c'est des fermes qui vont être à vendre dans des régions. Et comme d'habitude, ben ça va être probablement dans les régions périphériques où l'agriculture est au centre de l'économie régionale qui va se voir réduite parce que moins de fermes, tout simplement.
Ouais. Vous parliez tout à l'heure du gouvernement fédéral et à votre connaissance, il y a des choses semblables qui se font ailleurs au Canada ou dans le style de ce que vous faites à l'UPA?
Les informations que j'ai, c'est à l'effet que depuis 2 ans, en Ontario, dans l'Ouest, on se préoccupe de la question parce qu'il y a eu des suicides d'agriculteurs.
Aussi, ouais.
Et j'ai eu connaissance d'une étude par une chercheure de l'Ontario, l'Université de Guelph, qui arrive essentiellement aux mêmes conclusions que nous au Québec. Ce qu'on a demandé justement au fédéral, c'est de développer une coordination des investissements qui sont faits en agriculture, de manière à ce qu'on complète nos recherches plutôt que de les doubler d'une province à l'autre.
Okay.
Et il me semble qu'il y a eu de l'ouverture, on verra, parce qu'au fédéral, on fait des demandes, mais des fois la réponse est quelques mois ou années un peu plus tard. Mais j'ai compris dans les membres de la commission agricole qu'il y avait de l'ouverture à la problématique et à poser des gestes, alors on verra.
Puis ici au Québec, est-ce que les gens ont une oreille attentive, là, comme les gouvernements et les partenaires que vous approchez?
Dans un premier temps, tous les partenaires qu'on a approchés ont énormément d'ouverture à collaborer, à soit adapter leur offre de service, soit à s'impliquer au niveau de la prévention. Parce que peut-être qu'on aura 2 minutes pour parler de la prévention.
Oui, c'est
parce
important.
Parce que le curatif, ça, c'est à l'extrême. Hein? Mais si on se concerte pour développer de la prévention en agriculture auprès des agriculteurs, leurs familles, on risque de réduire de beaucoup la détresse et par conséquence, les suicides. Dans le cas du gouvernement, je dirais qu'il y a de l'ouverture, mais je ne veux pas véhiculer mes propres préjugés, là, mais le ministère de la Santé, c'est assez gros. Hein? Et puis, même s'il y a des gens qui disent « oui, on est conscient qu'il y a une problématique », mais il y a plein de services à travers le Québec dans le réseau de la santé, utilisez-les, un petit peu entre guillemets, ouais. c'est le message qu'ils nous donnent. Nous, ce qu'on a demandé particulièrement, c'est dans les guides de pratique qui sont élaborés pour les directeurs, pour les responsables des différents réseaux, qu'on introduise des informations sur la réalité d'un agriculteur.
Ouais.
Ne serait-ce que de dire aux psychiatres qui interviennent, quand un agriculteur vous consulte, vous avez un diagnostic de burn-out ou d'épuisement professionnel, faites beaucoup de choses, mais retourne n'allez pas chez lui. Même si lui ne veut pas, là, il faut trouver des moyens de faire en sorte qu'on l'envoie dans des maisons de répit ou qu'on trouve des façons de ne pas le retourner dans son entreprise, qui est la source de son mal.
Ben oui, c'est
ça. Alors, je pense que ça va faire son petit bout de chemin. Ça peut être un peu long, mais nous, on ne lâchera pas là. On va mettre la pression qu'il faut avec nos responsables politiques pour qu'il y ait une sensibilité puis des actions concrètes.
Ben oui. Tout à l'heure, vous parliez donc d'une des préventions qui a été mise en place, c'est les sentinelles. Est-ce qu'il y en a d'autres types d'actions qui ont été mises en place pour ce type pour la prévention?
Ben là, on est à élaborer une politique sur la qualité de vie. Alors, au cours de la prochaine année, là, c'est l'équilibre de vie, la qualité de vie qui va être notre thématique. Et dans le fond, ce qu'on veut, on veut faire croire aux producteurs que de dire que ça fait 20 ans qu'il n'a pas pris de vacances et pas une fin de semaine, c'est pas une bonne idée.
C'est ça.
Ce qu'il faut arriver à croire, c'est qu'au moins à chaque année, l'agriculteur se donne du temps pour lui. Et on sait que ça ne sera pas facile parce que l'agriculture, c'est un métier de passion. Et le producteur, il ne veut pas sacrifier sa passion pour son entreprise pour son propre bien-être personnel. Alors, on va travailler sur la prévention avec tous les groupes qui sont ouverts à participer à des campagnes de prévention, de sensibilisation sur la qualité et l'équilibre de vie des agriculteurs.
Parce que même, je pense que dans la société d'aujourd'hui, souvent, c'est même valorisé. Quelqu'un qui dit, bon, j'ai pas pris de vacances ou j'ai tout juste sauté mes vacances, souvent, on valorise ça plutôt que de dire, il faudrait que tu prennes soin de ta santé. Là.
Absolument. Puis, dans certains domaines qui sont très payants, on va dire ça entre guillemets, ben, tu peux dire, moi, je vais travailler pendant 15 ans comme un fou.
Ouais, c'est ça.
Puis après ça, je vais vendre mon entreprise quelques millions, puis là, je fais la fête.
Mm-hmm.
Malheureusement. En agriculture, c'est pas le cas.
C'est ça.
L'agriculteur va travailler 35, 40 et des fois 50 ans sur son entreprise. Et quand il va la transférer, à peine s'il va avoir un capital disponible pour assurer sa retraite.
Ben oui. Mm-hmm.
Il va peut-être avoir une entreprise qui vaut 2 millions, 3 millions, mais il y a un endettement. S'il la transfère, il ne pourra pas la vendre au vrai prix à son fils, à sa fille. Alors, c'est une réalité différente. Et on ne peut pas compter qu'à 55 ou 60 ans, l'agriculteur vend sa ferme et il part ses hivers en Floride, quoi.
C'est ça, avec l'esprit tranquille. Parce qu'en plus, des fois, j'imagine, quand il transfère à un membre de la famille, il y a quand même un stress qui reste, hein, parce que ça reste dans la famille. Donc, il y a encore un stress qui peut continuer après. Là.
Absolument, absolument. Puis, il faut quand même dire aussi aujourd'hui que les jeunes ont une bonne formation, ils sont bons gestionnaires. Mais la complexité de la gestion de la ferme fait en sorte que les parents restent proches, d'autant plus que très souvent, ils vont se garder des parts dans l'entreprise parce qu'ils ne sont pas capables de vendre totalement.
Okay.
Alors, la technique développée, c'est un transfert graduel par des actions des parents vers le fils ou la fille intéressée à prendre la relève.
Bien. Je voyais justement, vous parliez tout à l'heure d'études. Là. Justement, j'en avais vu une dans l'article dont vous avez participé dernièrement là, suite au forum là, sur la prévention du suicide. On dit que 57% des agriculteurs disaient avoir vécu de grands moments de détresse au cours de l'année précédente. Par ailleurs, seulement 20% disent aller consulter.
C'est, absolument.
C'est ça encore. Une fois, c'est la démarche pour aller consulter. Ils n'ont même pas le temps, là, comme vous dites. Là.
Oui, mais ça demeure que dans notre stratégie de prévention, il faut introduire l'importance d'aller consulter.
Mm-hmm.
Et ça, c'est un travail qu'on demande à nos sentinelles.
Aussi. Mm-hmm.
Une fois qu'ils ont détecté, ils vont offrir aux producteurs soit voici le numéro de téléphone de professionnel avec qui tu peux entrer en contact. Puis si tu n'as pas le goût, donne-moi la permission que moi, je vais appeler le professionnel et lui, il va te contacter. Alors, on essaie de boucler la boucle de cette façon-là. Et toutes les études démontrent qu'une problématique d'épuisement professionnel, si tu la prends au début du processus, ça se guérit facilement. Mais si tu attends 6 mois, 1 an, ben là, en principe, un bon burn-out, là, ça prend 6 mois à 1 an avant de remettre la personne sur pied.
Alors,
on imagine qu'un agriculteur ne prendra pas 6 mois de vacances parce qu'il est en burn-out. Là.
C'est ça, effectivement. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a aussi la problématique de la main-d'œuvre qui est de plus en plus présente. Puis en plus, souvent, il y a tellement de connaissances que l'agriculteur a qui c'est difficilement transmettable complètement là, dans 1 semaine, 2 semaines. Puis tu ne peux pas dire je pars, puis je n'ai plus de téléphone, rien.
Là, non, c'est impossible.
C'est ça.
Ce qu'on envisage, par exemple, pour donner un exemple du travail qu'on essaie de faire, on sait qu'il y a des agriculteurs qui ont 3-4 personnes à leur emploi parce qu'ils ont des grosses fermes. Et on sait aussi que certains de ceux-là seraient prêts à libérer un de leurs employés pour aller faire du dépannage. Parce que souvent, ça arrive, là, c'est pas planifié 6 mois d'avance. Là,
non,
ça arrive,
c'est ça, ben oui.
La personne tombe au bout du rouleau, puis là, ça prend un remplacement. Alors, avec nos centres d'emploi agricoles dans les régions, parce qu'on a 12 centres d'emploi au Québec, on va essayer de mettre en place des banques de travailleurs expérimentés.
Ben oui, déjà qui ont de
l'expérience. Parce que là, tu prends pas quelqu'un sur le coin de la rue pour dire tu t'occupes du troupeau de 100 vaches, là.
Ouais.
Tu sais, c'est pas
du jour au lendemain.
Non. Mais si tu prends quelqu'un qui a déjà l'expertise sur une autre ferme, à ce moment-là, ça va permettre aux producteurs de quitter la ferme en étant tranquille par rapport à ce qui va
aussi,
se passer.
Oui, c'est ça.
Alors, on va faire ça là, au cours des prochaines années, ce qui n'est pas facile, mais je crois que c'est une des solutions qu'il faut mettre en place si on veut amener les producteurs à consulter au début de leur processus. Parce que quand ils tombent à terre malades, ils n'ont plus de choix. Là.
Ouais, ouais,
mais
ouais.
Si on essaie de faire de la prévention, ça pourrait aider beaucoup d'entreprises.
Parfait. Pour terminer, M. Girard, est-ce que des agriculteurs qui auraient entendu ou des amis d'agriculteurs, est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers un organisme déjà existant ou est-ce qu'ils peuvent appeler à l'UPA? Comment ça fonctionne?
Dans chacun de nos bureaux, on a un responsable de la santé psychologique. Alors okay. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est de communiquer directement avec les centres de prévention du suicide. 1-866 appelle. Dans plusieurs régions du Québec, on a des travailleurs de rang qui sont reliés à l'organisme au corps des familles agricoles. À la limite, si les producteurs ont envie de jaser entre eux, ils peuvent faire appel à Réseau Homme Québec qui offre des services dans plusieurs régions. Alors, c'est pas les ressources qui sont pas là, ils sont disponibles.
C'est ça.
Mais il faut amener le producteur à communiquer ou interpeller les ressources pour qu'ils puissent se rendre sur la ferme. Comme moi, j'ai discuté avec plusieurs centres de prévention du suicide et de plus en plus, on offre le service de le producteur appelle, au lieu de donner un rendez-vous, je vais aller te voir sur la ferme.
Ah oui, oui, OK, oui.
Ça, c'est une clé.
Ben oui.
Parce que quand il appelle le producteur, là, il est dû, là. Il faut que tu l'attrapes à ce moment-là.
Absolument, oui, c'est ça. Ils attendent à l'heure des minutes.
Alors, plutôt que donner un rendez-vous dans les semaines qui suivent, ben si tu te rends sur la ferme, c'est vraiment la recette. Et il y en a qui le font. Certains centres le font déjà.
Parfait. Ben, en tout cas, merci beaucoup de votre visite, M. Girard. Et puis, en tout cas, on invite les gens d'être attentifs. En tout cas, s'ils ont des gens autour d'eux là, qui sont dans le domaine de l'agriculture. Et puis, peut-être que si vous sentez qu'il y a besoin d'un coup de main, là, soyez vigilants à ce point-là.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir.
Et bonne continuité.
Merci, vous aussi.